Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Céline Alix a longtemps cru que la réussite pouvait se définir ainsi. Se barder de diplômes, passer des nuits blanches avec une pizza pour clôturer un dossier, ne pas avoir le temps pour une vie personnelle et être félicitée comme une bonne élève par ses supérieurs. Avocate pendant 8 ans au cabinet d'affaires entre Paris et New York, en passant par l'ambassade de France et l'AMF, Céline mène alors une vie qui, de loin, fait rêver. Puis vient l'usure. Vient surtout la réalisation qu'on peut faire autrement. Réussir autrement. Alors elle ose quitter la robe, un certain vernis social, et se lance dans la traduction juridique en tant qu'indépendante, avec ses doutes, ses peurs et son envie de bousculer les codes. Et ça marche. Sa déviation, elle nous la raconte aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Céline Alix, j'ai 47 ans, je suis mariée et j'ai une fille de 12 ans. Moi j'ai grandi dans une famille assez privilégiée, avec deux parents qui m'ont toujours beaucoup encouragée, beaucoup poussée. Je suis l'aînée d'une fratrie de trois, après moi j'ai deux frères. Et mes parents nous ont toujours élevés dans une parfaite égalité, toujours poussés, encouragés à faire du mieux qu'on pouvait. Donc j'ai toujours été bonne élève, j'aimais bien avoir de bonnes notes, avoir des compliments, j'étais vraiment une petite fille très appliquée et qui aimait bien réussir à l'école. J'étais plus littéraire que scientifique. Donc quand il s'est agi de décider ce que j'allais faire après le bac, je ne savais pas trop quoi faire, mais avec mes parents, on a vu qu'il y avait une formation à côté de chez moi, à Cergy-Pontoise, qui mêlait le droit et l'anglais. Et l'anglais, en fait, moi, je le parlais déjà couramment, parce qu'avec ma famille, on est parti aux États-Unis, à Chicago, pendant une année, quand j'étais en cinquième, et donc j'ai appris l'anglais là-bas. Et c'est toujours quelque chose que j'ai gardé. Donc je suis entrée à la fac de Cergy-Pontoise en droit et anglais. Voilà, j'ai poursuivi mes études avec application et sérieux, donc ça s'est très bien passé. En licence, j'ai eu envie d'aller à Paris dans une fac un peu plus importante, donc je suis rentrée à Assas en maîtrise. Et là, le droit me plaisait. J'ai jamais eu moi la vocation d'être avocate. J'ai jamais rêvé de porter la robe et de défendre la veuve et l'orphelin, mais c'était un sujet qui m'intéressait et comme ça se passait bien, j'ai continué. J'ai fait ce qu'on appelle un DESS, qui est maintenant l'équivalent d'un M2 à Paris Assas, en droit de la propriété intellectuelle. Et ensuite, je suis rentrée en stage dans un cabinet d'avocats, mais vraiment par hasard. C'est mon père qui m'a trouvé ce stage. J'ai commencé donc à Londres. Encore une fois, ça s'est très bien passé puisque j'étais toujours très sérieuse, très appliquée, etc. La personne pour qui je travaillais à Londres a appelé le bureau de Paris et a dit « il faut absolument que vous la preniez également en stage parce que voilà, c'est quelqu'un qui travaille bien, etc. » Donc prenez-la. Donc je suis rentrée dans un cabinet anglais. Et là, même chose, ça se passait super bien. Il y avait plein de jeunes, on travaillait beaucoup, il y avait une super ambiance, c'était très galvanisant, très excitant. Et alors moi j'avais pas le barreau à l'époque, donc ils m'ont dit on t'embauche sous condition que tu passes le concours d'avocat. Donc j'ai quitté le cabinet pendant 2 mois, j'ai révisé le concours et je l'ai eu. Et ensuite j'ai fait l'école du barreau en même temps que que je travaillais là-bas. Donc moi, quand j'ai commencé, réussir ma vie, c'était déjà c'était décrocher un boulot que je faisais bien. C'était bien faire mon travail en fait. J'étais toujours un peu dans ce dynamique de la bonne élève. Et donc moi, tant qu'on était content de mon travail, j'avais l'impression de réussir. C'est ce qui s'est passé pendant mes premières années d'exercice de la profession d'avocat. Je travaillais beaucoup, tout le monde travaillait beaucoup. À nouveau, on était une bande de jeunes. On passait nos soirées au bureau, on commandait des pizzas à 22h, on mangeait tous ensemble, on rentrait chez nous, il était 2h du matin. On avait des taxis qui nous attendaient pour nous ramener à la maison. On était dans une espèce d'excitation permanente et d'émulation en fait. Plus on travaillait, plus on nous disait que c'était bien et donc on était content quoi. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais avec mon petit copain qui, alors lui, il ne comprenait pas du tout ce que je faisais et pourquoi je rentrais si tard et il m'arrivait de rater des dîners qui étaient même chez nous en fait. On invitait des gens à dîner et moi j'y étais pas. Donc mais moi ça me paraissait normal, c'est-à-dire que j'avais trouvé ce travail, j'y étais bien et j'étais complètement acquise à l'idée qu'il fallait beaucoup travailler et que c'était le contrat en fait. On était très bien payés. Mais il fallait être là et travailler beaucoup. Tous les soirs, quand je l'appelais vers 19h, il me disait « Mais c'est quoi le tarif ce soir ?» Et je lui disais « ça va être minuit, ça va être 10h, ça va être 2h du matin, ça va être toute la nuit. » Donc lui, ça le rendait fou. Lui, il comprenait pas, en fait. Et les gens autour de moi, qui n'étaient pas dans ce milieu, ne comprenaient pas pourquoi on passait nos nuits, nos week-ends. J'ai annulé des vacances... Mais voilà, on était dans cette espèce de bulle, et nous, on pensait que c'était normal, et que c'était ça la vraie vie, et c'était ça la réussite. Et oui, je m'y sentais très bien, parce que, c'était excitant, on travaillait sur des dossiers qui apparaissaient dans les journaux, on rencontrait des PDG, des gens hyper importants, on avait l'impression de faire des choses très importantes, en fait. Au bout de quelques années, l'associé, dans un cabinet d'avocats, il y a des collaborateurs et des associés. Donc les associés, c'est ceux qui détiennent les parts du cabinet, donc ce sont les boss. L'associé avec qui je travaillais m'a proposé de le suivre dans un autre cabinet américain cette fois, avec trois autres collaborateurs, donc j'ai dit ok. Je suis partie là-bas. Ce qui était sympa, c'est que moi j'avais toujours voulu partir aux États-Unis travailler, et du coup grâce à ce cabinet américain, j'ai pu partir 6 mois dans leur bureau de New York, donc c'est-à-dire le bureau principal à New York. Et bon, là c'était le rêve de l'avocat d'affaires, c'est-à-dire que j'étais dans les locaux étaient dans une tour de je sais plus 50 étages. Moi j'avais mon bureau au 44e étage. Le matin j'arrivais avec mon café comme dans les séries quoi, et je travaillais dans le monde des affaires et à New York, donc c'était le top, c'était le Graal quoi. Et là, je travaillais encore plus qu'à Paris, si c'était encore possible. Je pense que c'est là que j'ai commencé un peu à me dire, mais combien de temps je vais tenir? En fait, le déclic, il est venu un petit peu par le physique. C'est-à-dire, je me suis dit, mais moi, les nuits blanches, etc., quand on a 25 ans, ça va, mais en fait, c'est épuisant, quoi. Donc ça, je pense que c'est un peu commencé par là. De plus en plus aussi, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer toutes ces soirées au bureau? Est-ce que ce contrat, on n'aurait pas pu l'écrire pendant la journée? Est-ce que vraiment c'est nécessaire, ou est-ce que c'est un espèce de jeu que tout le monde joue? C'est une pièce de théâtre un peu à laquelle tout le monde participe et où on a l'impression que ça fonctionne comme ça. Mais moi, je me disais, mais peut-être qu'on pourrait fonctionner différemment et rentrer chez nous à des heures. Descente quoi. Donc je pense que c'est à New York que le doute a commencé à s'instiller. Donc à New York, il y avait une cafétéria qui était ouverte de 6h du matin à... Je crois qu'elle était ouverte 24h sur 24 en fait. Donc on pouvait prendre son petit déjeuner là-bas, son déjeuner, son dîner. Il y avait des douches aussi. Donc on pouvait vivre au bureau. Donc c'était vraiment poussé à l'extrême. Il y avait aussi une équipe de secrétaires du jour et des secrétaires de nuit. Donc à partir de 6h, on réservait son secrétaire de nuit pour pouvoir travailler toute la nuit. Et à New York, c'était encore plus, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui était là toute la nuit, qui tapait les documents et qui nous les préparait pour le lendemain. En fait, le délire de travail était poussé à l'extrême et je pense que ça m'a aussi ouvert les yeux. Je me suis dit, mais en fait, ça peut ne s'arrêter jamais, quoi. C'est-à-dire que plus on en fait, plus on nous en jetait. Et il y a un moment, je me suis dit, mais comment je vais faire pour tout faire? Je pense que j'ai eu une espèce d'épiphanie un matin à 5h du matin. J'avais passé toute la nuit à relire des documents. Et j'étais dans mon bureau et je voyais le soleil se lever et je me disais, mais... Et donc, j'étais toute seule dans mon bureau avec mes fringues de la veille, un bout de pizza sur le bureau, j'étais épuisée et je me disais, mais est-ce que vraiment c'est ça la réussite, quoi? Combien de temps je vais tenir ce rythme, en fait? Enfin, je le faisais parce qu'il fallait le faire, mais il y avait plus de plaisir, en fait. Il y avait pas de plaisir, en fait. Je pense que c'est ça aussi qui m'a, le déclic, ça a été ça. C'est que je me suis dit, mais attends, la réussite, c'est ça, c'est de travailler énormément, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir un statut, mais finalement, est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me rend heureuse? Et non, en fait. Voilà, dans ces milieux, on est tellement habitué à travailler beaucoup qu'il y a des petites blagues qui se font. C'est-à-dire que si on part un peu plus tôt un soir, si on part à 19h au lieu de 23h, on a ces réflexions. Ah, mais tu prends ton après-midi. Alors au début, je trouvais ça rigolo. Puis en fait, après, je me suis dit, mais c'est... Voilà, j'avais plus la légèreté, j'avais plus l'envie, l'élan, j'avais plus le plaisir en fait. Je voyais que l'absurdité du système et surtout je m'apercevais que ce système de réussite qu'on me proposait, ça me convenait pas et que moi, si j'avais les rênes, je ferais autrement. Je ferais plus efficace, je ferais la journée, pas la nuit et je me disais que ça pouvait être amélioré donc ça me convenait plus en fait. Dans le livre que j'ai écrit là, parce que j'ai sorti un livre qui est sorti hier, qui s'appelle Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale. Le merci mais non merci, c'est vraiment ça en fait, c'est de dire mais nous en tant que femmes, on est arrivées dans un monde qui était préexistant, qui a été créé par d'autres que nous, donc avec des codes, des horaires, des rites auxquels on n'a pas participé. Et merci mon merci, c'est de dire mais alors donc c'est ça le modèle de réussite que vous nous proposez, mais en fait moi j'en veux pas, c'est pas ça ma réussite, c'est pas ce qui me pousse, c'est pas ce qui me fait avancer. Le déclic qui s'est vraiment fait progressivement, parce qu'il y a eu donc ces prises de conscience un peu physiques et puis très fortes à New York. Quand je suis rentrée de New York, je suis repartie assez rapidement après à Washington parce que j'ai suivi mon ex petit copain là-bas. Et là-bas, j'ai travaillé à l'ambassade de France pendant 4 ans. Et j'ai découvert là-bas qu'on pouvait faire un job super intéressant dans des horaires normaux et dans un rythme normal. Donc ça aussi, je pense que ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai adoré ce que je faisais, c'était hyper intéressant. J'ai rencontré plein de monde, c'était une très très bonne période. Je suis rentrée au bout de 4 ans donc. Et ce qui est sympa, c'est que le cabinet américain dans lequel je travaillais avant, de partir m'a reprise alors que j'avais pas exercé depuis 4 ans, donc j'ai réintégré le cabinet d'avocats américain et là on m'a remise tout de suite sur des dossiers, ça s'est reparti comme en 40. Et là en fait au bout de 2 mois je me suis dit mais non en fait c'est là le déclic, je pense qu'il est là, c'est-à-dire d'avoir vu qu'on pouvait travailler autrement et de faire des trucs très intéressants dans des conditions normales. Je me suis dit mais là je peux pas en fait, donc je suis allée voir mon boss. Et je lui ai dit que je voulais faire de la gestion de savoir-faire. En fait, dans des cabinets d'avocats, il y a des gens qui s'occupent de récupérer tout ce que les avocats rédigent et qui en font comme une base de données, en fait, parce que comme souvent les contrats se répètent, il s'agit, en fait, de rassembler l'information et d'aider les avocats à pas refaire la roue à chaque fois et donc à leur donner des précédents et puis c'est aussi suivre l'actualité juridique. Donc je gardais mon statut d'avocat, mais je faisais un pas de côté. Et j'étais plutôt en support des avocats, j'étais plus sur le dossier, j'étais plus en première ligne. Là, mon boss m'a dit, mais là, t'es en train de ruiner ta carrière, t'es en train de tout foutre en l'air, t'es vraiment sûr que tu veux faire ça? Et j'ai dit, ben oui, je suis sûre. Il fallait que je sorte des dossiers. Je pouvais plus travailler la nuit, je pouvais plus, les réunions le soir, je trouvais ça tellement absurde et je me disais on peut tellement faire autrement qu'en fait ça me rendait vraiment, j'étais en colère quoi, je me disais mais non je peux plus faire ça. Donc il fallait vraiment la priorité c'était de sortir des dossiers et donc j'ai trouvé que cette solution elle était pas mal parce que je restais dans un environnement que je connaissais avec des gens sympas etc. Mais je faisais vraiment voilà à nouveau un pas de côté et j'avais des horaires normaux. Je me souviens aussi que j'étais allée voir une chasseuse de tête à l'époque parce que je cherchais un petit peu et elle m'avait dit mais là vous allez devenir un paillasson. Et ça m'a vraiment marqué parce que le mot paillasson, c'est quand même donc ce qu'elle me disait en fait, c'est que les gens allaient s'essuyer les pieds sur sur moi maintenant que j'avais décidé de plus être avocate, ce qui est quand même fort quoi. Donc mon boss a dit oui parce que de toute façon j'étais hyper déterminée, donc j'ai fait ça pendant à peu près un an. Et après j'ai vu qu'il y avait une place à l'Autorité des marchés financiers, qui est une entité aussi semi-publique, et ça me rappelait un petit peu l'ambassade de France, etc. Donc je me suis dit bah tiens, j'ai eu envie de retourner un petit peu dans ce milieu, donc j'y suis allée et là je suis restée un an et demi parce que alors là pour le coup la bureaucratie, la hiérarchie, la mécanique, là ça me pesait vraiment en fait. J'avais besoin de liberté quoi, j'avais besoin de sortir de tout ça. Et donc j'ai démissionné. Et là j'avais 36 ans, ma fille avait je pense 2 ans et j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que je m'inscris comme avocate, et puis je me suis dit non, en fait moi ce qui me plaît dans ce métier d'avocat c'est l'écriture, c'est la rédaction, c'est jongler entre l'anglais et le français. Ce que j'aimais c'était les mots en fait. Il y a deux de mes anciennes collègues du cabinet d'avocats dans lequel j'étais qui avaient monté leur business de traduction juridique et qui s'en sortaient très bien. Et je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire, en fait. Ça me paraissait facile, ça me paraissait à portée de main. Il y avait ces deux femmes qui le faisaient déjà et qui m'avaient dit, mais oui, viens, il y a du boulot pour tout le monde, pas de problème, etc. Et donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai un souvenir aussi, bon ça c'est un souvenir assez triste, mais ma dernière semaine à l'AMF, donc j'avais démissionné, et j'ai appris que ma meilleure amie s'était tuée dans un accident d'avion. Donc bon ça a été, je sais pas comment dire, la foudre quoi, ça a été un moment hyper dur. Mais je me suis dit, mais j'ai bien fait de démissionner parce que la vie elle est tellement courte que j'étais encore plus déterminée. Je me suis dit mais oui, mais en fait c'est ça, il faut faire ce qu'on veut, il faut faire ce qu'on aime, il faut faire ce qui nous porte quoi. Donc j'étais encore plus sûre de moi quoi, qu'il fallait aller vers le positif et le plaisir. Donc j'ai commencé cette activité. Alors au début c'était un peu bizarre parce que je m'étais loué un bureau parce que je voulais vraiment je voulais pas travailler de chez moi au début. Je voulais vraiment avoir encore cette idée de séparer le bureau et la maison. Donc je m'étais loué un bureau dans un coworking. Et donc j'y allais et là je regardais le téléphone et les premières semaines il se passait rien. Donc c'était un peu bizarre. En plus j'avais le décès de cette amie qui pesait. Donc c'était une période un peu enfin très particulière, donc je me souviens assez bien. Et puis en fait assez rapidement le boulot est arrivé parce que grâce à mes deux anciennes collègues qui m'ont un peu donné les ficelles, etc. J'ai envoyé un email à tous mes anciens confrères et je leur ai dit maintenant je me suis installée comme traductrice juridique. Comme vous le savez, j'ai exercé dans des cabinets anglais et américains, donc je parle très bien et j'écris très bien dans les deux sens, donc envoyez-moi vos traductions. Comme ils m'avaient vu travailler en tant qu'avocate, ils étaient rassurés sur la qualité. Et donc le boulot est arrivé assez rapidement et très vite, ça s'est enclenché en fait. Aujourd'hui, je me sens super bien. Et dans ma nouvelle activité, il se trouve que je travaille qu'avec des femmes. On est 8. Alors, c'est pas un choix, hein. Je me suis pas dit je vais travailler qu'avec des femmes, mais je pense que inconsciemment, je me suis quand même rapprochée de femmes parce que j'ai longtemps travaillé dans un milieu très très masculin. Enfin, il y a beaucoup de femmes dans les juristes et chez les avocats. Il y a environ 1800 avocats qui sortent de l'école du barreau de Paris chaque année. 66% sont des femmes. Et ce qui est fou, c'est que dans les cabinets d'affaires, parmi les associés, 17% sont des femmes. Et dans les collaboratrices, donc 83% sont des collaboratrices. Donc en gros, il y a beaucoup de femmes chez les juniors, il y a beaucoup de femmes au début. Et puis, bizarrement, les associés, ce sont que des hommes. Donc moi j'ai travaillé dans un milieu où il y avait beaucoup de femmes en bas, mais beaucoup d'hommes en haut. Et donc je pense que longtemps j'ai travaillé qu'avec des hommes et j'ai eu envie, j'ai eu un élan pour travailler avec des femmes. J'ai eu envie d'expérimenter cette relation. Et ça m'a totalement bluffé quoi, parce que je trouve que deux femmes entre elles, quand elles ont décidé de faire quelque chose et quand elles ont décidé de faire avancer quelque chose, surtout dans le travail, ça fonctionne super bien quoi. Donc aujourd'hui ça fait 10 ans que je travaille à mon compte et ça fait à peu près 6 ans qu'on s'est rassemblés au sein d'un réseau. Alors ça, c'est intéressant aussi parce qu'on a longtemps réfléchi à quelle forme on allait donner à notre regroupement. Et on a décidé de rester toutes indépendantes, mais de se regrouper au sein d'un réseau. Donc, on a un site internet et une marque ensemble. Mais en revanche, on a des comptabilités complètement différentes. On travaille quand on veut. S'il y en a une qui veut prendre toutes les vacances scolaires, elle prend toutes les vacances scolaires. Il y a personne ne rend compte à personne. On sait que s'il y en a une qui va prendre un dossier, ça va être traité impeccablement. On se dit juste quand est-ce qu'on part en vacances et quand est-ce que on n'est pas là. Moi, par exemple, pour écrire mon livre, j'ai pris quelques mois et je leur ai dit. Et évidemment, il n'y a eu aucun problème et elles ont absorbé les dossiers que je pouvais pas faire. Donc, on est dans une totale entente. C'est hyper fluide. Il y a des petites tensions, mais franchement, c'est rien qu'on puisse régler. Et du coup, c'est facile. C'est efficace, c'est facile, c'est agréable. Aujourd'hui, je partage mon bureau avec une des huit. Et alors, elle s'est mise à la poterie il y a 2 ans. Et elle a installé un tour de potier dans le bureau. Et donc, parfois, quand elle a fini une traduction ou qu'elle a envie un peu, elle se met à son tour et elle tourne. Et donc, moi, je suis là, je la vois et je trouve ça génial, quoi. Parce que je pense qu'aussi les femmes ont... Enfin, moi, c'est aussi ce que j'ai noté quand j'ai interviewé plusieurs femmes pour mon livre. Les femmes ont besoin de bouger, les femmes ont besoin de passer d'une vie à l'autre et on se permet de faire ça, en fait. Donc, dans les 8, on a toutes des enfants. S'il y en a une qui veut partir, s'il y en a une qui veut ne pas travailler une matinée pour aller s'occuper de son enfant, il y a juste aucun problème parce qu'on sait qu'elle rattrapera ou qu'elle travaillera plus ou enfin en tout cas le boulot sera fait. Et donc il y a aucune justification, aucune, on est sur la même longueur d'onde, donc c'est super agréable, quoi. Quitter la profession d'avocat, c'était dur parce que c'est un vrai symbole, hein, entre la fille qui m'a dit que j'allais être un paillasson, mon boss qui m'a dit t'es en train de ruiner ta vie, parce que le statut d'avocat, bah, il est quand même super prestigieux, que quand on dit à quelqu'un je suis avocate, bah tout de suite il y a comme un intérêt dans les yeux de la personne, alors que traductrice, bah, bon, les gens voient tout de suite ce que c'est et ont pas forcément envie d'en savoir plus. Donc il y avait ça, c'était quand même quitter un statut. Et puis j'avais l'idée que c'était dommage, en fait, qu'il y avait un espèce de gâchis, c'est-à-dire que j'avais fait toutes ces études, j'avais été formée dans des super bons cabinets, et finalement je décidais de partir et de pas capitaliser. Enfin, non, c'est pas que je capitalisais pas là-dessus, au contraire, je capitalisais sur ce que j'avais fait, puisque c'est ma profession précédente qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, j'avais l'impression, par rapport à mes consoeurs, par rapport aux autres femmes, j'avais l'impression de les lâcher, en fait. Parce que moi, j'étais arrivée au top. J'étais arrivée dans une profession historiquement masculine. J'y étais arrivée. Et en fait, je décidais d'en partir. Donc, pendant longtemps, j'ai eu un sentiment d'abandonner les autres, en fait. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ce sentiment. Puisque, bon, déjà, ça fait 10 ans que je suis traductrice. Et puis, écrire le livre, je pense que ça a été assez thérapeutique dans dans ce cheminement. Et puis surtout, en fait, je m'aperçois que finalement, on est assez seul avec son ressenti. Donc, même si les autres vous disent, ah non, mais traductrice, c'est beaucoup moins bien qu'avocate. Ok, mais qui c'est qui était à 5h du matin devant son ordi à sentir la pizza? C'était moi. Donc, je me disais, mais en fait, je m'en fous. Moi, je suis heureuse. Je suis traductrice, ça me rend heureuse. Je suis contente d'aller au boulot, donc voilà, ma réussite, c'est ça. Je pense que moi, je suis issue d'un milieu privilégié avec des parents qui m'ont toujours soutenue. J'ai un mari qui me soutient dans tous les sens du terme, qui gagne suffisamment sa vie pour que j'ai pu prendre le risque de créer mon activité. Et voilà, et je me dis toujours, je pense aux autres, quoi, qui n'ont pas cette chance, qui sont dans des boulots plus difficiles, qui n'ont pas le choix, qui sont seuls avec des enfants, peut-être. Si je devais parler à la Céline que j'étais quand j'avais 20 ans, je pense que je lui dirais, mais en fait, tu vois, t'avais raison de suivre ton élan, parce que moi, quand j'avais 20 ans, je voulais écrire, je voulais être écrivain. C'était les mots, donc je lui dirais, mais ouais, vas-y, continue là-dedans. Et puis surtout, le plaisir, quoi, vraiment l'élan, l'énergie, en fait. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'anime le matin? Il faut suivre ça, je pense. C'est la clé. Et personne d'autre pourra te dire ce qu'est ton élan et ce qu'est ton envie. Donc, et puis à nouveau, c'est toi qui la vis tous les jours. Donc, il faut pas hésiter à suivre sa voie, quoi.
C'était un entretien mené et réalisé par Victoria Guillaumont pour Les Déviations. Nous sommes un média indépendant à retrouver sur Acast, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook et sur lesdéviations.fr. Pour nous encourager, commentez, écrivez-nous, partagez et ne vous retenez pas sur les étoiles et les pouces levés. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.